Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite et enfin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités qui ont réalisé leurs rêves, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Yves Leblévesque. Yves est skipper depuis maintenant 30 ans. Il rêvait d'être un skipper professionnel depuis de très longues années, mais il a mis beaucoup de temps avant de se lancer. Aujourd'hui, il est sur l'un des plus gros bateaux au monde et atteint des vitesses fulgurantes. Il a même tenté le record du Tour du Monde à l'envers, mais vous le verrez, ça s'est soldé par un échec et il en a appris énormément. J'étais vraiment ravi de rencontrer Yves, il m'a emmené sur son bateau, il m'en a parlé avec passion et j'espère vraiment que ça va se retrouver dans cet épisode. Vous allez voir, ça va changer un petit peu des épisodes de d'habitude. Juste avant de commencer, j'ai plusieurs petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe. Donc je compte sur vous pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements. Si vous aimez le podcast, vous pouvez déjà en parler autour de vous, à vos amis sportifs ou non, je suis sûr que ça leur plaira. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes, c'est vraiment l'application de référence, donc c'est ça qui m'aide beaucoup. Donc si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez notamment le faire sur celui d'un copain. Franchement, ça serait super sympa. Enfin, si vous écoutez sur Spotify ou une autre application, c'est devenu très facile de partager les épisodes en story Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen d'échanger avec vous et de me faire part de vos recommandations et de me suggérer des invités. J'ai récemment créé une newsletter que vous pouvez retrouver facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien normalement qui remonte dans Google. J'y partage des bons plans santé, matériel, nutrition, préparation mentale. Bref, je pense que vous allez aimer. Allez, je laisse place à mon invité du jour, Yves Leblévesque. Salut Yves!
Oui, bonjour Barthélémy.
Écoute, merci beaucoup de me recevoir sur ton bateau. Alors là, on s'est un petit peu déplacé, on est juste en face de ton bateau. Et écoute, c'est un immense honneur pour moi et un énorme plaisir de t'inviter et de pouvoir te rencontrer parce que c'est la première fois que je pense que je monte sur un voilier aussi grand et sur un trimaran. Donc c'était vraiment une belle sensation et tu m'as fait découvrir ton univers et ton outil de travail, même plus que ça, hein. J'imagine que c'est beaucoup plus pour toi ce bateau.
Ah bah c'est à la fois effectivement de façon assez froide un outil de travail, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est ma maison quand je navigue, et puis c'est mon quelque part c'est mon ami, enfin tu vois, le bateau, pour qu'il avance, pour qu'il fonctionne, pour que ça marche bien, il faut qu'on s'entende bien. Donc c'est évidemment une chose, hein, tout ça n'est que matière inerte, hein, ça n'a formellement ça n'a rien de vivant. Il n'empêche que c'est une sacrée interface avec les éléments avec lesquels on doit composer. Et écouter le bateau est un élément de performance. Oui.
Ok, donc il y a un vrai échange finalement entre toi et ce bateau. Mais comme je te le disais, j'aime bien commencer un peu le podcast par faire un petit peu un ordre chronologique. Et j'aime bien savoir comment est-ce que tu, quels sont tes premiers souvenirs de sport et comment est-ce que tu en es venu à la voile?
Alors. Moi, la voile, c'est un truc. J'ai pas l'impression d'y être venu. En fait, ça a toujours été là. Avec mes parents, on naviguait depuis. Ils ont toujours eu une petite appétence pour la mer, mais en loisir. Hein, ça a jamais été leur métier. Mais il se trouve que dans nos vacances, on était toujours au bord de la mer. Alors pas ici en Bretagne. Ils sont bretons, hein, mais ils étaient plutôt du côté de l'île de Léron. Et on a passé toutes nos vacances au bord de la plage avec un accès à la mer et une relation à la mer très présente, que ce soit pour les bateaux ou la pêche à pied ou enfin, tout un tas de choses. Mais toutes mes vacances étaient vraiment très maritimes. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, on a navigué un peu plus. Tu vois, ici, là où on est, le port de la Trinité-sur-Mer, là, dans lequel on est, avec actuel, mon bateau, et puis les autres bateaux qu'on voit, c'est un endroit dans lequel j'habite et je travaille aujourd'hui, mais c'est un endroit dans lequel je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé ici, c'est en bateau, en croisière avec mes parents quand j'étais ado. J'étais
Ouais,
venu
c'est marrant.
ici en bateau, il y a de ça maintenant une bonne quarantaine d'années. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Après, ça m'a passionné. Les récits des navigateurs de l'époque. Donc, l'époque, c'est quand j'étais ado, c'était en pleine les années Tabarly avec les grands tours du monde, les premiers records, les premières transats en solitaire, les premières routes du Rhum et compagnie. Tout ça, moi, j'ai suivi ça avec énormément d'envie, énormément enfin, avec une passion incroyable. Et ça m'a toujours fait rêver en me disant. Le rêve ultime, ce serait au moins une fois dans ma vie de naviguer sur un de ces bateaux-là ou de côtoyer un peu ça. En fait. Bah, après, petit à petit, les choses se sont faites, mais ce n'était pas facile parce que quand je disais ça à mes parents que je voulais faire du bateau, leur réponse assez pragmatique était que tu feras du bateau quand tu auras un métier, quoi. Mais c'est pas un métier de faire du bateau. Et en fait, bah, à force, j'ai fini par réussir à faire en sorte que ce soit mon métier, mais ça a pris du temps.
Ouais, j'imagine. J'avais lu en plus que tu as grandi en région parisienne au début et qu'après tu as déménagé à La Rochelle, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, en fait, bah, mes parents, comme beaucoup, ils étaient jeunes mariés bretons. Dans les années 50, la Bretagne était complètement sinistrée, hein, ça n'avait rien à voir à ce que c'est aujourd'hui. Donc, ils se sont installés à Paris pour bosser, comme beaucoup. Hein, la gare Montparnasse est plein de Bretons. Par contre, on partait en vacances, ouais, au bord de l'eau. Mais moi, toute ma jeunesse, je l'ai passée en région parisienne, dans un endroit où je le sais maintenant, mais je le savais déjà à l'époque, mais c'était pas très clair, ou qui n'a jamais été chez moi. J'ai
Ouais.
jamais été chez moi en région parisienne.
Ouais, tu te sentais pas chez toi et c'est pour ça que du coup après t'es revenu et j'ai vu que très vite tu as trouvé un métier dans le domaine maritime, il me semble.
Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis arrivé. Je suis arrivé. J'ai basculé à La Rochelle assez rapidement parce que j'ai réussi à convaincre mes parents que c'était mieux pour moi d'être proche de l'environnement marin, que ça allait être plus efficace pour mes études. Je ne sais pas si ça a été réellement efficace, mais pour mon bien-être, ça l'était, ça c'est certain. Ouais. Et puis après, bah, dès que j'ai eu mon bac, j'ai cherché du travail parce que je ne voyais pas très bien que faire comme études. Et j'ai trouvé un peu par hasard quelqu'un qui préparait un bateau ici à la Trinité-sur-Mer. Donc ça, c'était, je sais pas moi, en 87, 86, 87. Et je suis venu ici. Puis depuis là, pour le coup, en quelques semaines, je me suis retrouvé dans un endroit où j'avais la conviction d'être chez moi.
Ouais.
Vraiment. Et de me sentir... très très proche de cet endroit-là.
Ah mais c'est assez intéressant comme histoire parce qu'en plus enfin du coup tu commences à écrire un petit peu ton destin finalement. J'imagine que tu peux naviguer encore plus et tu te fais des super connaissances techniques ce qui est quand même un gros avantage et qui est nécessaire après pour devenir un vrai navigateur et sur le long terme, non, j'imagine.
Ouais, alors l'avantage d'un village comme la Trinité-sur-Mer, hein, c'est marrant, c'est assez paradoxal. C'est un tout petit village, la Trinité, c'est 1700 habitants.
Ouais.
Mais il y a un niveau sportif en course au large qu'il y a toujours eu depuis les années Tabarly. Le Penduic 2 de Tabarly avec lequel il a gagné la Transat en 64, qui est vraiment l'élément fondateur en fait de la course au large moderne telle qu'on connaît. Le bateau, il a été construit ici à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici.
Ouais.
Donc on est dans le berceau de la course au large et il y a toujours eu énormément d'activités, même si le village est petit.
Attends. On a des fans.
Alors,
je crois qu'il y a un petit quart de touriste qui vient d'arriver juste à côté. Bon, allez, on va continuer comme si de rien n'était. On va s'en sortir. Et du coup, tu dis, on est dans le bassin sur la terre-mer des marins, quoi.
Voilà. Et puis, en fait, c'est un endroit. Ça peut être un petit village, ça peut être un petit endroit. C'est un endroit avec énormément de brassage et avec des gens qui vont, qui viennent. Mais j'ai toujours rencontré avant même de naviguer, mais rien quand. Buvant des bières au bistrot du coin, des gens qui partaient sur des navigations incroyables et puis d'autres qui revenaient de navigations incroyables et puis qui racontaient tout ça. Donc ça, rien que ça, c'est assez passionnant. Même si le village est petit, l'ouverture sur le reste du monde est énorme. Et ouais. C'est quelque chose de très, très appréciable. Et c'est le cas, évidemment, encore aujourd'hui, toujours. C'est un endroit qui brasse énormément.
Ouais. Et tu te souviens un petit peu de ce qui ressentait le jeune garçon qui sommeillait en toi et qui débarque à La Rochelle avec une envie de naviguer un peu. Tu te souviens des émotions que tu parcourais à cette époque-là?
Alors, il y a en fait, c'était avant que ce soit des émotions, c'était énormément de questionnements parce que j'avais une idée à la fois assez précise tout en étant assez confuse de ce que je voulais faire.
Oui.
Et en fait, l'idée était précise, mais le chemin était confus, on va dire. Et parce qu'il n'y avait pas de filière. Aujourd'hui, c'est globalement plus simple. Il y a une filière sportive, il y a des écoles de sport, des sports-études, des filières course au large qui existent et tout. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Et donc, c'était pas forcément facile de rentrer dans cet environnement de course au large qui me faisait tant rêver.
Comment t'as fait du coup ?
Et en fait, moi, je suis rentré par le côté chantier naval.
Ouais.
C'est-à-dire que déjà en terminale à La Rochelle, je travaillais dans un chantier, dans le chantier Pintin, qui existe toujours, pour pendant les vacances scolaires, ça me faisait un peu de pognon, ça m'allait bien. Puis en plus, moi, du coup, je mettais la main physiquement, là, pour le coup, sur des bateaux de course et tout. Déjà, ça, je trouvais ça génial. En plus, j'étais payé pour ça, c'était parfait, mais rien que le fait de mettre la main dessus et de bricoler dessus et de faire des petits boulots, hein, j'avais pas beaucoup de compétences techniques, mais ça m'a apporté beaucoup. Et puis j'ai commencé à construire une compétence de construction navale et de maîtrise de la chaîne des matériaux composites, tu vois, la résine, les tissus, tout ce qu'on peut faire avec. Et je me suis construit une compétence là-dedans, qui un peu sur le tas, enfin énormément sur le tas, uniquement sur le tas d'ailleurs. Et petit à petit, quand je suis arrivé ici à la Trinité-sur-Mer, j'ai continué dans cette compétence-là, ou que j'ai développée. Assez rapidement, au bout de quelques années, j'ai monté un chantier naval avec un copain qui existe toujours, hein, le chantier. Moi, je ne suis pas resté dedans, mais un chantier qui fabriquait des bateaux et des pièces pour des bateaux. Donc, ça permettait de côtoyer ce monde de course au large par le biais de fournisseurs de matières premières, d'éléments fondamentaux pour naviguer, voire construire les bateaux et des pièces de bateaux. Et ça, c'était déjà assez passionnant. Et puis, je me suis, du coup, techniquement, j'ai affûté mes connaissances. Et ça, ça a été pendant pas mal d'années, parce que après ça, je suis resté toujours dans cet environnement-là, mais en m'occupant plus d'une partie gréement, accastillage, mât, câble, cordage. Toujours assez proche du milieu de la course au large. Et jusqu'au moment où arrivé à peu près à 35 ans par là, donc au bout de 15 années de carrière quasiment, j'ai réalisé que tout ça était très bien, mais que j'étais en train de passer à côté le truc qui me passionnait depuis longtemps, qui était d'aller naviguer, d'aller tâter la navigation au large. Arrivé à un moment, j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté un petit bateau, un bateau de la catégorie des mini transats. Alors, mini transat, il n'y a que le bateau qui est mini, parce que la transat, c'est une transat comme les autres.
Bien sûr. C'est
les bateaux qui sont petits, ça fait 6,50 m de long. Et comme c'est petit, c'est plutôt moins cher, même si ça reste quand même assez coûteux tout ça, mais c'est... En tout cas, ça permet de faire une transat en solitaire avec un budget accessible à un endettement personnel. Quoi. Parce que quoi qu'il arrive, ça coûte des ronds. À moins de devenir professionnel, c'est quelque chose qui peut coûter pas mal d'argent, mais à un niveau qui est absorbable en quelques années de remboursement de dette, on va dire.
Okay.
Donc, je me suis lancé là-dedans. Et ça, c'était en 2001. Donc, il y a précisément 18 ans de ça.
Ouais. Je crois que tu la gagnes cette course d'ailleurs, non ?
Alors je la gagne, mais pas ma première participation.
Ouais.
Première participation, j'ai fait cinquième, ce qui était pas mal, hein, parce que j'étais quand même vraiment bleu là-dedans. Mais, toute la saison de navigation que j'avais fait avant, j'avais surtout découvert que j'étais dans le match, sportivement parlant.
Ouais.
Et puis que ça me plaisait énormément.
Ouais.
Parce que j'ai toujours été assez prudent. C'est quelque chose qui me passionnait, ok, ça c'est un fait. Mais pour autant, ça peut être hyper décevant. Enfin, tu vois, d'aller dans le truc qui t'a fait toujours rêver, quand tu y es confronté, finalement, on peut s'apercevoir que c'est pas finalement, c'est quelque chose qui est du domaine du fantasme, mais que ça peut rester au niveau du fantasme, et que c'est pas forcément que de le réaliser n'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire. Donc je me gardais au fond de moi la possibilité de dire bon bah Yves, au moins t'essayes, mais c'est pas grave si ça te plaît pas, c'est pas grave. Et ça jusqu'à la fin de ma première transat. C'est une transat qui va de La Rochelle jusqu'au Brésil, hein, c'est quand même une belle diagonale de l'Atlantique. Et arrivé au Brésil, j'ai un souvenir très précis du matin du dernier jour de navigation, où je savais que j'allais arriver dans le début d'après-midi, un truc comme ça, de me dire, mais là, en fait, ça s'arrête, je suis content d'arriver parce que je vais retrouver la terre, les copains, l'ambiance. Mais ça pourrait durer des jours et des jours comme ça serait top aussi, quoi. Enfin, je me sens trop bien en mer. Et du coup, je me dis, bah là, tu peux continuer dès que tu arrives, dès que tu rentres à la maison, tu prends ton téléphone et tu te débrouilles à continuer cette expérience-là et à trouver d'autres embarquements ou autre. Donc ça, ça a basculé comme ça assez vite.
Ouais, donc ouais, le déclic que tu as eu vers le haut niveau, finalement, il s'est fait en l'espace de quelques mois suite à ta première course. Et,
ouais, alors
et là, tu t'es dit que tu voulais être professionnel et faire une carrière dans ce sport.
Vraiment, ouais, tout à fait. Alors, en fait, ça s'est fait. Après, ça a été très vite parce que quand je suis arrivé, j'ai contacté à l'époque, il y avait Carsozon qui montait un équipage sur Geronimo pour un tour du monde. J'avais des copains qui naviguaient dessus, mais l'équipage était déjà complet. Mais juste à ce moment-là, il y avait Bruno Perron qui montait un équipage avec Orange. Mmh. Et là, il était en cours de constitution d'équipage, donc je l'ai contacté et puis j'ai été pris assez rapidement. Mais quand je dis assez rapidement, c'est en quelques semaines. Donc, en quelques semaines, je suis passé du bateau le plus petit qu'on puisse imaginer en course au large au plus grand qu'on puisse imaginer. Je suis passé du solitaire à l'équipage.
Puis vous partez pour un record de vitesse, c'est ça?
Et on repartait pour un record autour du monde.
Ouais.
Je suis passé d'une Transat à un tour du monde. Et ce qui fait que je suis à peine passé par la case La Trinité-sur-Mer, parce que quand je suis rentré du Brésil chez moi, je suis tout de suite reparti à La Ciotat où était à l'époque Orange. Donc j'ai dû rester quelques jours à La Trinité. Et en fait, je suis parti de La Trinité en septembre 2001 pour une Transat. J'ai fait ma Transat. Je suis repassé chez moi pour prendre une douche, quoi, en gros, quoi. Et après, on est reparti avec Orange. Je suis à peine repassé chez moi. Et on est revenu en avril 2002. Après un tour du monde. Et en fait, moi, en quelques mois, j'ai enchaîné une Transat en solitaire et un tour du monde en équipage, quasiment non-stop, tu vois.
Ouais, l'apprentissage rapide.
Et puis, du coup, je suis passé du technicien que tout le monde connaissait un petit peu à un marin connu, reconnu homologué ou comment certifié course au large, tu vois.
Ouais, puis en plus vous avez eu ce record, il me semble.
Et en plus on a eu le record, donc c'était quand même très réjouissant. Et moi, ce qui est drôle, c'est que moi, dans ces 6 mois de temps-là, moi, j'ai pas changé. Objectivement, tu changes pas en 6 mois. J'ai vu des choses, j'ai appris des choses, mais par contre, ce qui a changé énormément, c'est le regard porté sur qu'on pouvait porter sur moi. C'était assez surprenant d'ailleurs, il y a un tas de gens qui se sont mis à me dire bonjour, qui ne me regardaient pas auparavant.
Okay. Tu te souviens de ce qui a changé d'autre par ça?
Et puis après, moi, ça m'a aussi totalement conforté. Ce qui a réellement changé, c'est la confiance que j'ai pu avoir en moi sur ma capacité à mener des projets, à être légitime à naviguer sur les bateaux en tant qu'équipier professionnel. Avec une expérience où je pouvais mettre à profit en fait toute mon expérience professionnelle, technique et professionnelle que j'avais dans ma vie précédente avant de naviguer, que j'ai mis à profit en permanence, que ce soit en termes de connaissances qu'en termes de réseau technique, tu vois, de connaître les uns les autres, de savoir qui fait quoi, c'est essentiel.
Bien sûr, ouais. Bah, tu mènes des projets un peu comme un entrepreneur, quoi. On en reparlera et tout, mais... Oui. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que tu parles effectivement d'aller voir des partenaires, de monter des projets. La voile, j'ai remarqué un peu que c'était un petit peu comme le Tour de France. Le branding est très souvent très associé à les marques investissent de l'argent dedans pour assumer des bateaux. Comment est-ce que tu peux expliquer rapidement comment est-ce que ça fonctionne parce que je sais qu'on a des gens qui nous écoutent qui sont un petit peu curieux de savoir à chaque fois quel est l'envers du décor et de comprendre un petit peu la mécanique, quoi.
Alors on a de la chance en France, et vraiment là, le sponsoring voile en course au large fonctionne très très bien. On a énormément d'entreprises qui estiment que associer leur image à un bateau de course, un bateau de course au large, un bateau à voile, est quelque chose de très positif. Alors on a cette chance-là que c'est assez répandu, c'est quelque chose dans les mœurs des entrepreneurs en France. Et puis après, on a un paquet d'arguments. Le premier argument assez massu, c'est que le nom du bateau s'appelle le nom de l'entreprise.
Ouais, voilà, ouais.
Là, en face de nous, le bateau s'appelle Actual Leader, qui est le nom de l'entreprise qui nous porte. Et qu'on le veuille ou non, Même pour parfois les journalistes qui ont du mal à faire de la pub parce qu'ils veulent pas dans leur rédactionnel faire. Ils sont, même sans citer le nom du bateau, ils ont obligé de montrer l'image du bateau, et on fait en sorte que la déco de nos bateaux là, que la déco de nos bateaux rende le nom incontournable. Et ça c'est un argument énorme. Nous, dès qu'on navigue avec le bateau, on porte la marque Actual Leader partout. Et plutôt de façon positive, parce que naturellement, un bateau à voile, et puis c'est une réalité, la voile est un sport globalement propre. Hein. On navigue uniquement, notre performance est uniquement liée à l'effet du vent dans les voiles et l'interaction air haut, et on glisse juste dans cette limite entre l'eau et l'air, et on essaye d'exploiter ces éléments naturels et de composer avec ces éléments naturels. Donc qu'on soit un spécialiste de la course au large ou totalement néophyte, cette notion là elle existe. Un bateau à voile, c'est un bateau à voile, ça marche avec le vent, ça marche avec rien d'autre. Et ça, c'est quand même des valeurs très, très positives et qui tendent à l'être de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'on est de plus en plus conscient de notre intérêt à composer avec les éléments naturels et renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis après, quand on va un peu plus dans le détail, à chaque événement, à chaque course, les courses au large, c'est des événements assez populaires qui réunissent pas mal de monde, qui ont un public qui suit. L'arrivée d'Internet avec les cartographies et les suivis par satellite permettent de suivre les courses quasiment minute après minute. Maintenant, on a des rafraîchissements de cartographie très rapides. Donc, c'est sûr que on a un public qui nous suit. On a également, à l'occasion des départs, c'est des événements assez festifs qui attirent du monde. Il y a toute la presse sportive, mais pas que sportive, nous Bien suit sûr. Parce que, en plus d'être un sport, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de marin. Et en plus d'être des sportifs, on a un petit côté aventurier. Honnêtement, traverser l'Atlantique en solitaire.
Il y a une petite fascination, bien sûr.
Quel que soit le bateau, c'est engagé. Et même pas en course, hein, traverser tout court, enfin, sans chercher à aller vite, c'est quand même quelque chose d'engagé. Et là aussi, le public, qu'il soit spécialiste ou pas spécialiste, reconnaît cet engagement. Même en creux, en disant, ça, la plupart des gens nous disent, ça, moi, je sais que je ne ferai jamais. Rien que le fait de se dire ça, ils nous suivent, ils nous accompagnent. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez naturellement une sympathie, une audience qu'on trouve assez facilement. Ouais. Ouais. Donc, les marques aiment s'associer à ça.
Ouais, et du coup, toi, tu fais opérationnellement, tu fais comment ? C'est tu démarches, ou est-ce que tu fais un des appels à projets généralement, ou c'est plutôt eux qui vont venir t'approcher pour te dire, Yves, quels sont tes projets ces 3-4 dernières années ? On aimerait bien monter un bateau avec toi. Comment est-ce que ça se fait ? Parce que j'imagine que c'est des contrats, pas des contrats, mais des partenariats long terme. C'est aussi quelque chose qui se construit avec le temps, avec ta réputation, tu l'as dit, du jour que ça a un peu changé. Moi, j'aime bien justement rendre un peu hommage aux marques comme ça, parce que je trouve que c'est un très beau moyen de communiquer en soutenant des sportifs et d'apporter un petit peu de rêve pour les gens qui suivent. Mais toi, ouais, du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu généralement qu'est-ce qui se fait ou un petit peu comment ça
ouais, c'est pas facile, hein. C'est globalement pas facile, parce qu'il faut à un moment donné se vendre, il faut amorcer la pompe, hein. Faut commencer, ouais. faut amorcer l'histoire. Et c'est pas forcément facile, parce que on a tendance à vendre, qu'on va proposer un projet sportif. Tout. Mais en fait, ce qui attire le plus, c'est une histoire d'homme, une histoire de personne, une histoire de vie. Et c'est pas ce qu'on a tendance à mettre en avant naturellement. C'est pas forcément facile. Et puis, les entreprises sont quand même assez sollicitées par des tas de de projets. Ça va de l'équipe du foot du coin, l'équipe de vélo, ou le mec qui veut faire un 4L Trophy, ou ça. Enfin, t'en as plein, des sûr, projets comme sûr, ça qui sont tous bien et qui ont tous leur intérêt. Mais il faut juste tomber quand même. Il y a une forme de réussite où il faut tomber au bon moment. Et au moment où, idéalement, que moi j'arrive avec mon projet sous le bras. Au moment où l'entreprise s'est interrogée sur le fait de vouloir communiquer au travers du sponsoring, enfin, en disant, ouais. Voilà, dans notre politique de com, faut qu'on trouve quelque chose d'un peu plus original que de mettre des pages de pub dans la presse locale ou dans la presse... Enfin, ouais. De trouver quelque chose qui nous construise un petit peu.
Et, qui est plus associé à des valeurs aussi.
Qui soit associé à des valeurs et à une forme d'identité. Donc, il faut tomber à ce moment-là quand même. Hein. Il y a une forme de réussite. Donc, la recherche au début, elle est quand même un peu laborieuse. Et puis, il y a un facteur réussite. Des fois, ça marche, ça ne marche pas. La règle, en gros, la vraie règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. sinon que celui ou celle avec qui tu vas signer, la rencontre s'est faite par un cheminement que tu n'avais pas imaginé au départ, mais que tu as quand même provoqué quelque part.
Ouais.
Bah, tu vois, ça prend souvent des chemins assez étonnants, mais ça ne vient pas par hasard.
Ouais, bien sûr, bah c'est toujours un peu comme ça. Et du coup, une fois que tu as trouvé des partenaires et tout, tu dois monter une équipe. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de personnes travaillent avec toi et à peu près combien de qu'est-ce que ça représente une équipe? Parce que c'est vrai que toi, on te voit partir tout seul faire le tour du monde et sur ton bateau, mais bah là, tu viens de me présenter à plusieurs personnes. T'es pas tout seul, quoi.
Non. Alors, et puis là, tout dépend de la taille du projet. Là, on va y revenir, mais sur le bateau, le actuel leader actuel, on est dans la catégorie ultime et l'équipe est grande. Mais ça commence, tu vois, si on reprend l'histoire depuis le début.
Ouais.
Un projet type Mini Transat, c'est par essence un projet solitaire. Et t'es solitaire sur le bateau pour le faire marcher, ça c'est une évidence, tout le monde comprend, mais t'es aussi tout seul à porter le projet.
Ouais.
Et à le financer, bien souvent d'ailleurs, à commencer par là, et à gérer toute la problématique de projet qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire que si l'aventure démarrait le jour du départ de la course, ce serait hyper simple. Mais l'aventure, elle démarre bien longtemps avant, parce qu'il faut un bateau, il faut le préparer, il faut l'adapter, il faut s'entraîner, il faut participer à différentes courses, il faut le faire progresser, il faut l'apprendre, c'est-à-dire il faut vraiment que le bateau, c'est un prolongement de moi, quoi. C'est comme, tu vois, c'est comme l'épée d'un escrimeur, là, où tu vois, c'est le prolongement de son bras. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui sont... Et le bateau, c'est pareil, c'est une machine complexe, c'est un sport mécanique, hein, la course au large, c'est une machine qu'on utilise et qui doit être vraiment complètement intégré, être un prolongement de soi pour que ça fonctionne bien. Et tout ça, pour le mettre au point, bah, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Et bah, quand tu es tout seul au début, et c'est typiquement dans les projets Mini Transat que je suis encore beaucoup, on s'aperçoit que ceux qui arrivent et qui font des bons résultats à la fin, c'est évidemment des bons marins, des bons sportifs. Mais en plus, c'est des gens qui savent gérer un projet et qui savent organiser leur projet et gérer les priorités, notamment, enfin, gérer l'ensemble des choses. Donc, c'est souvent des gens dans notre milieu qui sont avec des jolies valeurs de sportifs, des jolies valeurs même de professionnels global, parce qu'ils ont beaucoup de compétences. Et après, bah, quand le projet grandit, évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul. Là, pour te dire, là, dans le team actuel leader, nous sommes 10 permanents. Et en moyenne, on doit être 12 ou 13 à l'année. Ouais. Parce qu'il y a toujours des ressources complémentaires selon les moments où on navigue, où on navigue pas, où on bricole, où il y a des gens qui viennent avec des compétences et des spécialités bien précises pour renforcer l'équipe en place. Donc aujourd'hui, dans le team, on est... on gère en moyenne entre 12 et 15 personnes toute l'année.
Ouais.
Ce qui représente, du coup, c'est, ça n'a rien à voir avec le métier de faire naviguer à bateau. Hein,
c'est ça. Ouais.
Mais tout ça, on doit pouvoir le faire.
C'est quel corps de métier, du coup ? Beaucoup de gens qui font effectivement de la technique, qui t'accompagnent sur la partie matérielle, on va dire. Et après, est-ce qu'il y a d'autres corps de métier dont tu as besoin ?
Alors, nous, dans notre recrutement, on est encore... on n'est pas la plus grosse équipe, mais on est déjà une jolie équipe. Moi, je mets... un caractère essentiel, c'est qu'il faut avoir un minimum de culture maritime. C'est-à-dire qu'il faut connaître, on n'a pas besoin d'être excellent, on n'a pas besoin d'être haut niveau, mais avoir une culture maritime de base, savoir ce que c'est un peu l'environnement des bateaux, l'environnement de la course, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes catégories, avoir navigué un petit peu, savoir un peu, vous voyez, l'avant, l'arrière d'un bateau, savoir faire un nœud, savoir participer aux manœuvres globalement. En fait, on a besoin, il y a un socle commun qui est, que j'attends, qui est d'avoir un niveau de culture maritime, pas très élevé, mais existant,
ouais.
En sachant que c'est normal un jour de demander à qui que ce soit dans l'équipe de mettre son ciré et puis de venir participer à une manœuvre parce qu'il faut être toute l'équipe pour assurer la sécurité. Et puis même si... sa fonction dans la manœuvre ne sera pas énorme, il faut pouvoir le faire. Et puis après, il y a des spécialités, corps de métier par corps de métier. Et ça va de... Globalement, on a des grandes rubriques qui sont... il y en a un qui va être responsable de l'aspect mécanique du bateau, donc tous les organes, tout ce qui tourne, tout ce qui est mécanique à bord, hein, ça fait beaucoup. Il y en a un autre qui va s'occuper de tout ce qui a des fils, hein, l'électronique, l'informatique, l'électricité.
Ouais.
Il y en a un autre qui va s'occuper de toute la partie composite, la partie structurelle du bateau. Il y en a un autre qui va s'occuper de toute la partie gréement, cordage, voile du bateau. Il y en a un autre qui va gérer la partie bureau d'études et conception de pièces parce qu'on est dans des bateaux où il y a énormément de pièces qui n'existent nulle part ailleurs, donc il faut les inventer. Et puis après, ça se renforce plus ou moins dans telle équipe. Et puis pour tout ça, il faut encadrer tout ça. Donc il y a un directeur technique hein, qui va piloter tout ce job-là et qui va faire bosser les gens les uns les autres, qui va avec moi gérer les priorités, puis décider ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Et puis il faut aussi... un directeur qui, là, en l'occurrence, est une directrice administrative et logistique pour gérer tout ce petit monde-là et gérer les déplacements aussi quand il y en a, parce que par essence, on se déplace. Donc, déplacer une équipe, c'est pas, ça demande un peu de logistique. Ouais. Donc, en fait, il y a par beaucoup de côtés, c'est une entreprise, comme on gère... c'est un projet qui ressemble à une entreprise.
Bah écoute, ouais, je suis content que tu le dises parce que c'est quelque chose vraiment que je voulais mettre en valeur, moi, à travers aussi ce podcast. C'est un peu la partie un peu invisible parce qu'effectivement, on voit la partie médiatisée des sportifs, mais on voit très, très peu souvent l'entraînement, les gens qui sont autour, toute la préparation en amont qu'il y a. Et tu vois, et je suis content que tu en parles parce que j'avais vu aussi avec Mathieu Tordeur qui m'expliquait que lui, 90% de son temps, c'était la construction de son projet et que finalement, ses expéditions, c'était entre 5 et 10% du reste. Donc, tu vois, je suis content un petit peu d'aborder tout ça. Et vu que tu disais que tu manageais beaucoup et que c'était vraiment des compétences, on va dire, un peu d'entrepreneur, est-ce que tu t'es formé un peu sur ces parties-là ? Est-ce qu'elles peuvent paraître moins... Tu vois, tu peux moins les voir ou est-ce que tu as appris finalement avec ton expérience et avec le temps
Formellement, non.
Ouais.
Mais après, j'ai toujours réussi à m'entourer et en fait d'être très attentif aux gens, aux professionnels avec qui on travaille, mais que ce soit dans tous les domaines. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, c'est évident, là, on est dans le même contexte. Une course en solitaire, je suis effectivement en solitaire sur le bateau, c'est le but, et c'est... c'est l'essence même, c'est quand même le côté le plus passionnant de la course à la voile, hein, c'est d'être tout seul à bord du bateau. Mais objectivement, 80% du job, il est fait avant le départ. Ouais. Et il est fait par une équipe. Parce que tout seul, on ne peut rien. Tout seul, on est vraiment pas grand-chose. Et une course en solitaire, derrière, il y a toute une équipe et qui travaille principalement avant, un peu après, pendant, quand il s'agit de transmettre quelques informations que des fois j'arrive pas tout à intégrer dans ma tête, donc quand même quelques transmissions d'infos. Mais l'équipe est fondamentale. Et du coup, c'est fondamental pour que tous les gens dans l'équipe travaillent dans un but de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
D'apporter à moi, en l'occurrence, au skipper, un bateau, un ensemble qui va être performant, fiable et adapté à ce que j'attends, parce que les uns les autres vont attendre telle ou telle différence. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour répondre à ta question de la formation, pour beaucoup, c'est très autodidacte, mais on a la chance, bah là par exemple, je profite énormément de collaborer avec Actual Leader, qui est une entreprise qui travaille dans la ressource humaine, c'est du travail temporaire, hein, donc leur métier, c'est la compétence.
Bien
c'est
sûr.
De mettre les bonnes compétences aux bons endroits. Donc je m'appuie énormément sur les conseils que je peux avoir chez les uns les autres dans l'entreprise pour optimiser cette partie-là qui est a priori pas mon métier, mais j'ai autour de moi, j'arrive à avoir de très bons conseils. Et c'est vrai aussi sur un aspect communication, par exemple, où l'essence de ce bateau-là, c'est de communiquer. C'est quand même notre objectif numéro un, donc communiquer. Il y a énormément de supports aujourd'hui sur lesquels on peut communiquer, à commencer par ce qu'on fait en ce moment. Et puis tout ça, ça s'apprend. C'est des prestataires avec qui on travaille, qui eux-mêmes m'apportent par rapport à leur expérience. Et moi, je leur rapporte tout simplement en disant bah, ça... ça c'est super, mais juste c'est pas possible, et on va pouvoir faire comme ça. C'est en fait c'est de la collaboration en permanence avec des experts dans leur domaine, mmh. et qui nous permettent de faire un ensemble assez cohérent. Oui.
Ouais. Bah écoute, ouais, non, je suis vraiment très très intéressé par tout ça parce que bah, tu vois, c'est des sports très différents. On pourrait comparer bêtement un sport d'équipe comme le football, tu vois. Et tu vois, bah les gamins, ok, bah le chemin il est un peu tracé. On va dans un club, on joue, on a un entraîneur, puis on change de club, après on rentre dans un centre de formation. Et je trouve, effectivement, ouais, pour Tavar, c'est beaucoup plus autodidacte. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est en permanence. Tu dois te renouveler et en permanence tu dois te former. Donc je trouve ça très passionnant. J'aimerais un petit peu aborder ta vie sur l'eau parce que c'est quelque chose qui a beaucoup attiré ma curiosité et je voulais savoir un petit peu comment je sais pas sur, on va dire sur une longue transat par exemple ou un tour du monde, comment se décompose un petit peu tes journées, est-ce que tu arrives à dormir, est-ce que tu arrives à je sais que le sommeil c'est un sujet qui me passionne en plus et du coup j'aimerais qu'on en parle un petit peu, la nutrition aussi également, comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie, enfin une journée avec toi sur ton bateau.
Alors déjà dans la voile en général, hein, il y a beaucoup de disciplines. D'ailleurs, des fois, il y en a peut-être un peu trop, on s'y perd un peu parce que c'est pas facile. Mais on peut diviser quand même tout ça en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on va appeler la régate, où il y a plein de supports, plein de catégories différentes. Mais le thème, c'est que tu pars le matin, tu fais une, deux, trois, quatre manches sur l'eau. Et puis le soir, tu reviens et tu dors à l'hôtel ou chez toi ou enfin mmh. tu dors ou dans ton camion ou enfin et tu dors à terre et tu repars le lendemain. Donc ça c'est vraiment la partie régate qui est qui est quelque chose qui peut être très drôle, hein, assez passionnant sportivement. Mmh. Et puis après, tu as la course au large qui est à partir du moment où tu passes une nuit en mer. C'est-à-dire que tu pars et tu vas aller souvent d'un point à un autre ou faire un parcours avec une distance un peu plus importante. Et là, l'objectif est d'aller toujours, toujours le même, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Hein, ça, c'est vrai. Mais avec en plus une dimension durée, une dimension vie à bord, sachant que y a des moments, bah, tu vas passer un peu le relais. Alors quand c'est en équipage, tu vas passer le relais avec, avec d'autres. Et puis, quand c'est en solitaire, bah, va falloir s'organiser pour que le bateau continue d'avancer, continue de d'être performant, même si moi, je suis tout simplement en train de manger, en train de me laver, en train de dormir, à faire des tâches qui sont incontournables. On ne peut pas être 100% du temps dédié à la performance du bateau, et c'est ça qui fait la différence entre la régate et la course au large.
Merci pour la précision. Voilà. Effectivement, j'avais oublié, moi je sautais un peu vite.
Mais et, ouais. Et une fois, voilà, après la course au large, comment on fait? Il faut ménager des temps pour soi, parce que ce qui est le truc le plus important, le truc qu'il faut garder tout le temps sur le dessus de la pile, c'est avoir être en lucidité maximale. C'est d'être toujours le plus smart possible, le plus clair possible dans ses idées. C'est ça, à bord d'un bateau, la chose que tu dégrades le plus vite, c'est le marin.
Ouais. La concentration
et le moral du marin, tu vois, et parce que mine de rien, on peut très vite se dégrader, et donc ça va tourner autour de ça. Pour ça, il faut, c'est tout simple, hein, faut prendre soin de soi, faut bien manger, bien dormir. Et bien dormir, ça veut pas dire dormir beaucoup, hein. Bien manger, ça veut pas dire manger beaucoup, mais il faut être bien nourri, faut penser à se nourrir et penser à se reposer. Et voilà, une fois qu'on a posé ça, pour le sommeil, ouais, écoute, c'est très simple, hein. En dessous de 5 à 6 heures par 24 heures, on se met en déficit de sommeil. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut globalement dormir un quart du temps. Mmh. Ce qui est beaucoup. Hein.
Ouais.
Et en dessous de ça, c'est possible. Hein. On peut faire une nuit blanche, deux nuits blanches. Déjà, au bout d'une nuit blanche, t'es plus très malin. Et au bout de deux, tu deviens carrément légume. Et t'es d'autant plus légume que la première altération, ça va être justement cette sensation d'être diminué. C'est le côté très, très sournois du manque de sommeil. C'est que moins tu vas dormir, moins tu vas avoir l'impression d'être diminué. Alors que, objectivement,
ouais,
je suis diminué, mais comme ce que je perds en premier, c'est la lucidité, eh ben, ça va être la lucidité d'être fatigué. tu vois, c'est vraiment tout négatif, c'est un cercle vicieux dans lequel il faut pas rentrer, donc il faut dormir.
Tu dors par tranche?
Donc évidemment, quand je dis, allez, mettons, si c'est un quart du temps, si on dit qu'on dort 6 heures par 24 heures, ce qui est pas mal, hein, 6 heures par 24 heures, c'est pas 6 heures consécutives.
Ouais.
Les phases de sommeil en solitaire, c'est jamais plus d'une heure. Mais une heure, c'est bien, c'est grand, c'est une belle. Mais par contre, ça peut être, si c'est une phase à peu près stable dans laquelle navigue le bateau, c'est je dors une heure, je me réveille, je fais un check, tout va bien, ça progresse bien, tout va bien, je me recouche, je redors une heure, je recheck. Donc je peux faire des séquences de sommeil comme ça où je vais enchaîner plusieurs siestes. Okay. Mais il y a toujours des petites.
Tu ne cherches pas à avoir un rythme régulier, en fait.
Des petites coupures. Bah non, parce qu'on est totalement dépendant de l'environnement. Et alors, il y a une chose qui vraiment conditionne énormément la qualité de notre sommeil, c'est la stabilité ou l'instabilité des conditions.
Ouais.
En fait, Le bateau, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. On a à peu près pour chaque force et angle de vent une configuration de voilure optimale pour aller le plus vite possible. Mais et ça, c'est dans un schéma où le vent est stable. Et bien souvent, et plus le bateau est rapide, plus les conditions vont être changeantes, parce que non pas les conditions changent, et en plus, nous, on se déplace. Et on se déplace, quand on se déplace, on change de météo, on change de système météo. Il ne fait pas le même temps ici à la Trinité-sur-Mer qu'à La Rochelle, qu'à Bordeaux. Et là, avec le vent qu'il y a, La Rochelle, j'y suis dans 3 heures, 4 heures.
Ouais.
Donc, en fait, on de fait de notre déplacement rapide sur l'eau, on change de météo. Donc, si ça va faire un changement qui est connu et à peu près régulier, ça va. Mais si on va rentrer dans des zones très instables avec des nuages, des grains, des accélérations soudaines de vent ou des rotations soudaines de vent et tout, ça interdit de dormir pendant une heure. Dans ce cas-là, si je sais que ça va être limité dans le temps, bah, je vais veiller pendant ce temps-là. Et puis, si ça dure dans le temps, cette instabilité-là, bah, je vais fractionner mon sommeil en tout petits morceaux. Donc, ça va être des phases de 10 minutes, des choses comme ça. C'est vraiment très courte.
Tu peux t'entraîner à faire ça, à t'endormir?
Et puis après, bah, si vraiment c'est très instable et très inconfortable, bah, à un moment donné, il faut réduire la cadence du bateau pour pouvoir mettre le bateau dans une situation stable, pour pouvoir se reposer. Donc, à un moment donné, la priorité et de rester lucide sur le bateau. Et donc après, l'entraînement, bah, il vient un peu avec l'expérience. Puis je pense qu'il y a des gens qui font ça naturellement plus ou moins bien. Moi, j'ai pas trop de difficultés avec ça.
Ouais.
En fait, faut vraiment s'adapter en permanence aux situations qu'on rencontre.
Bah écoute, moi j'en serais pas capable, hein. Je pense m'endormir sur des petites séquences de 10 minutes. Moi je suis très attaché à ma nuit de 7 heures. Je me couche tôt, je me lève tôt, mais c'est très 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 régulier. J'ai un réveil qui me dit d'aller dormir, un réveil qui me réveille, mais j'ai pas appris en tout cas, et je sais même pas comment on fait pour dormir en séquencé comme ça. Donc je suis assez fasciné. Et niveau nutrition, j'imagine que tu peux pas manger comme en étant sur terre. Est-ce que on entend beaucoup, enfin peut-être que c'est un mythe, de parler de lyophilisé ou de repas liquide. Je voulais savoir si tu te préparais avant à ce type d'alimentation aussi, avant la course, j'imagine.
Alors là, moi je suis pas forcément un bon exemple sur la diététique, parce que autant la préparation sportive, moi c'est un truc que j'en fais de plus en plus par la force des choses, parce que les bateaux sont vachement physiques, que la diète, c'est un truc sur lequel je résiste un peu. Mais en fait, on a une véritable contrainte à bord en termes d'avitaillement. On n'a pas de froid, on n'a pas de frigo, on n'a pas de congélo. Ouais. Donc, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'on cherche à optimiser le poids de l'avitaillement qu'on a. Alors, évidemment, cette optimisation, elle ne va pas du tout être la même si on part sur une route du Rhum. Sur un bateau comme ça, c'est 8 jours, allez, 10 jours.
Ouais.
En solitaire, donc il faut juste prévoir 10 jours de bouffe. Ou si tu pars sur un tour du monde en équipage, ou tu pars pour une cible à 50 jours et tu es à 6 à bord. Donc ça fait 300 jours de bouffe à embarquer.
C'est pas la même chose.
Pas du tout ce que je vais me permettre sur une route du Rhum, sur une période courte où honnêtement le bilan de poids va pas être fondamental dans le bateau, et que sur un tour du monde en équipage, il faut vraiment se creuser la tête.
Ouais.
L'impact va pas être le même au bout. Donc tout ça pour dire que quand on n'a pas de frigo, quand on n'a pas de froid, donc il n'y a pas de truc congelé, pour des raisons d'énergie, hein, tout simplement, hein, c'est qu'un congélateur, ça pompe de l'énergie et on n'a pas suffisamment à bord pour ça. Et du coup, bah, y a deux solutions. Ou bien tu as des conserves. Alors, heureusement, on fait des conserves plus smart que la boîte en ferraille qu'on empile. Ouais. C'est des sachets souples, mais c'est le même principe. Hein, c'est des plats apertisés. Et là, tu as des plats préparés qui sont plutôt pas mal, dont certains sont très bons. Et c'est un peu comme à la maison, hein. T'as des gens qui font des trucs très, vraiment très très bons. Et parce que les saveurs sont respectées, et puis on remélange l'accompagnement et l'alimentation au moment de la préparation, donc c'est quelque chose d'assez bon, mais c'est plutôt lourd parce que t'embarques tout. Ou alors t'as du lyophilisé, donc c'est de la nourriture déshydratée. Et comme on a à bord du bateau un désalinisateur qui nous permet de produire l'eau douce au fur et à mesure, le fait d'embarquer du lyophilisé est vraiment intéressant en termes de poids, parce, ouais, que, parce que tu n'embarques que l'extrait sec et l'eau, tu la fabriques au fur et à mesure.
Ouais.
Donc, sur des périodes d'équipage à long terme, il n'y a quasiment pas le choix d'avoir du lyophilisé. Ou c'est moins bon, honnêtement, c'est moins bon. C'est pas mauvais, hein. Il y a des trucs qui marchent bien, mais c'est pas, c'est moins bon.
Tu peux pas manger que ça d'ailleurs.
Non, c'est mais on complète avec deux trois trucs. De toute façon, même l'eau du lyophilisé, il faut compléter puisque du coup c'est de l'eau pure qui sort. Il y a plus aucun minéraux dedans, donc faut compléter un petit peu. Mais même sur des navigations telles qu'on les fait, au maximum sur ces bateaux-là, c'est 50 jours. Donc, tu vois, on ne développe pas beaucoup de carences en 50 jours. Hein.
Ouais, ça va.
Si tu pars en bonne santé, ça va. Donc, après, c'est vraiment. Là aussi, chaque marin, chaque sportif qui va mettre ses priorités. S'il considère que pour bien naviguer, il faut vraiment qu'il mette tous les ingrédients de performance de son côté et qu'il soit optimisé à mort en poids et tout, bah, il va manger du lyophilisé et des rations de survie tout le temps. Si dans la performance, tu considères qu'il faut prendre soin de soi et bien manger, bah, tu vas accepter que ça pèse un poil plus lourd, mais tu sais que ça va être mieux dans ta tête. Donc ça, c'est à chacun d'évaluer ce qui est important pour soi. Il n'y a pas de règle.
Ouais. Ok. Mais écoute, je me suis bien informé en tout cas parce que du coup, j'étais un petit peu curieux de savoir comment est-ce qu'on mangeait, comment est-ce qu'on se débrouillait. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais savoir si tu parlais un petit peu de préparation physique. Tu disais que tu t'y mettais. Est-ce que tu as d'autres petites choses que tu travailles, je sais pas, de la préparation mentale ou est-ce qu'il y a d'autres curseurs de la performance que tu essayes d'optimiser toujours
Bah, toujours en fait, parce que en fait il y a une partie technique très importante, parce qu'il y a une interface mécanique qui est vraiment importante. Donc le gros de la préparation, c'est vraiment dans la préparation de la machine, mais ouais, faut pas oublier de préparer l'utilisateur. Donc là, physiquement, moi, je fais une préparation sportive assez simple, hein, dans la mesure où l'idée, il faut être en bonne santé. Il faut avoir un cardio honnête, c'est-à-dire d'être capable de produire un effort soutenu pendant longtemps. Et puis surtout de connaître ce que c'est un effort soutenu. Enfin, tu vois, parce que objectivement, faire une manœuvre, tu vois, qui demande de l'effort physique, la faire en 8 minutes 30 ou en 10 minutes ou en 9 minutes 40, ça va pas changer la face du monde dans la navigation. Ouais. Ce qui est important, c'est de la faire au bon moment. Et une fois que c'est fini, de pouvoir la refaire en sens inverse, parce que voilà, tu vois, de rester en forme et de voir de bien identifier le niveau d'engagement physique que tu vas mettre pour rester pour être capable de t'engager physiquement, mais de rester lucide toujours et de rester en forme pour le faire. Et ça, c'est le côté cardio qui est important, et puis le côté solidité, robustesse, qu'il faut à la fois être quand même très bien gainé, parce qu'on fait des efforts des fois assez tordus,
ouais,
et à froid, enfin dans de mauvaises conditions, et puis être aussi suffisamment souple pour encaisser des chutes, des coups, des postures qui sont pas sur le plan. Et donc c'est l'ensemble de ces aspects qu'il faut avoir. Mais ma préparation physique, en fait, bah, tu l'as vu, moi je me je me déplace au quotidien avec mon vélo, ce qui est déjà, mine de rien, un truc vachement important. C'est-à-dire que tous les jours, je dois passer en moyenne une heure sur mon vélo tous les jours, parce que je me déplace pas mal du bateau au chantier, à chez moi, aux petites courses que je fais. Donc déjà, ça c'est... puis quand comme je trouve que ça va pas assez vite, je pédale quand même tout de suite assez fort. Et puis je me fais des sessions un peu plus longues quand j'ai... Donc rien que ça, moi j'ai un fond de... Bon, c'est pas... Il y a des sportifs qui s'entraînent beaucoup plus que moi. Moi, j'entretiens un fond de forme avec ça. Et puis à l'approche des courses... j'évite de boire trop d'alcool, parce que là, vraiment, l'alcool, c'est quand même un drame en matière de préparation physique.
Ouais, je suis d'accord.
C'est plutôt sympa dans l'ambiance. Là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment moche en préparation physique. Donc là, je vois...
Tu casses le mythe du marin, attention.
Non, pas tout à fait, parce que... Je plaisante. Mais vraiment, ça, c'est... Ouais. C'est hyper visible.
Très impressionnant
le fait de d'être, et encore c'est une abstinence toute relative, parce que c'est pas une abstinence totale, enfin abstinence c'est pas, mais au moins m'interdire les abus d'excès dans les périodes avant une course, et le ressenti sur la forme générale, il est immédiat, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est quand même un espèce de poison, quand même. Hein.
Ouais, on est d'accord là-dessus. En tapant ton nom sur Google, quand je faisais mes petites recherches sur toi, la première vidéo sur laquelle je suis tombé, ça a été ton élitreuillage suite au fait que ton bateau s'est retourné au large du Chili. Parce que tu tentais un record du monde en arrière, c'est ça ?
Ouais.
Le tour du monde à l'envers.
C'est ouais, ça c'est ça, ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce projet ? Déjà, pourquoi le faire à l'envers ? Et un petit peu l'histoire de ce projet. Et après, j'aime bien poser la question de quel est ton pire souvenir ? Peut-être que c'est celui-là, mais en tout cas, la vidéo est hyper impressionnante. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu ce projet, et peut-être pourquoi pas ce qui s'est passé à ce moment-là.
Bah, il y a 2 ans, à peu près jour pour jour, je quittais la Trinité à bord du précédent actuel pour tenter effectivement un record du monde à l'envers. Alors à l'envers, c'est pas forcément mon terme, mais c'est celui qu'on utilise. C'est d'est en ouest, c'est-à-dire que en gros, le tour du monde, tu as 2 façons de le faire. Hein. Tu descends l'Atlantique, ça c'est toujours pareil, hein. Faut imaginer, tu passes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, hein. Tu descends, puis là, arrivé en bas, t'as la solution de tourner à gauche ou à droite. Si tu tournes à gauche, c'est le sens conventionnel, c'est-à-dire tu es avec les vents portants, et puis tu commences par le cap de Bonne-Espérance, tu passes en dessous Australie, Nouvelle-Zélande, tu arrives au Cap Horn, et là tu retournes à gauche, et puis tu remontes Atlantique Sud, puis Atlantique Nord. Ça va dans le sens des vents et des courants, et c'est tous les records autour du monde sont faits dans ce sens-là. Et puis tu peux décider, arriver en bas, de tourner à droite et d'aller contre les vents et contre les courants, contre les vagues et contre les éléments. Et donc ce record-là, moi j'avais envie de le tenter parce qu'il se trouve qu'on avait à l'époque un bateau qui était un poil moins rapide que les autres, hein, tout simplement, et que ça avait pas beaucoup de sens d'aller sur le terrain où les autres allaient de toute façon plus rapide que nous. Donc voilà, il y avait un truc à prendre là, il y avait un record à faire, puis qui avait vraiment de l'allure. Et comme l'idée n'était pas de lutter contre les mers du Sud pendant des semaines et des semaines, l'idée était de contourner le Cap Horn, parce que ça on est obligé, puis de remonter après pour aller reprendre les alizés beaucoup plus nord, et de passer à peu près au niveau de l'Australie, hein. On n'avait même pas encore décidé si on allait passer au nord ou au sud de l'Australie, d'aller chercher ces conditions beaucoup plus calmes, et puis de redescendre un peu pour passer sous l'Afrique et de remonter. Donc comme on s'éloigne de l'Antarctique, ça rallonge considérablement la route. Mais comme on a des bateaux qui vont très vite au portant et pas forcément avec beaucoup de vent, c'est complètement gérable. Et aujourd'hui, le record qui existe encore jeudi doit être à 116 jours, je crois, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est
très long.
Donc là, notre cible, c'était à peu près 90 jours. Donc c'est largement faisable, hein. Sauf que il faut quand même de temps en temps lutter contre les éléments. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au passage du Cap Horn, il y avait quand même du vent et de la mer. Et du vent et de la mer là-bas, c'est du vent et de la mer, hein. C'est vraiment tempête. Et malheureusement, mon bateau m'a lâché et il s'est cassé. Enfin, c'est la raison pour laquelle il s'est retourné. Il a commencé par se casser.
Ouais.
Et un bras de liaison qui relie le flotteur à la coque s'est cassé, donc le bateau s'est retourné. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à l'intérieur du bateau, à l'envers, à organiser ma survie et mon rapatriement, enfin mon sauvetage. Ce qui s'est pas trop mal passé parce que, par chance, j'étais encore à portée d'hélico des côtes chiliennes. Donc c'est la marine chilienne qui est venue me chercher en hélico, ce qui est quand même la façon la plus safe de se faire évacuer de cette posture-là. Parce que embarquer sur un autre bateau dans ces conditions-là, ça aurait été, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent, beaucoup de mer, ça aurait pu être très dangereux. Donc ouais. L'opération, c'est finalement, pour moi, c'est bien passé. Pour mon bateau, malheureusement, non, parce qu'on a perdu le bateau. Hein, on n'a pas réussi à le récupérer, parce qu'il est parti à la dérive après. Et dans des conditions de vent et de mer, on n'a pas pu organiser la récupération du bateau. Et avec, en plus, la certitude que le bateau continuait à se détruire, parce que comme il n'était pas simplement retourné, mais déjà cassé, l'expérience montre que les bateaux résistent assez peu dans ce genre de conditions et se détruisent en plusieurs morceaux. Et donc, malheureusement, on a perdu le bateau. Okay. Et donc, ça fait à peu près 2 ans, ça. C'est pas un bon souvenir. Je suis même assez incapable de dire aujourd'hui à quel niveau ça a pu m'ébranler. Depuis, j'ai navigué un petit peu, mais j'ai pas fait de grandes courses telles que je vais faire là dans un mois. Donc, je pourrais t'apporter la réponse mieux au mois de décembre prochain, où j'aurai un mois de mer en course dans les pattes et je pourrais mesurer si cet événement m'a impacté réellement ou pas. Parce que forcément, ça ébranle et ça peut ébranler au profond de soi, et c'est très difficile à savoir en fait avant de s'y retrouver confronté.
Qu'est-ce qui t'a ébranlé? C'est on a peur pour sa vie, la confiance tout un en peu, soi.
Tout simplement, de façon très claire, d'être dans une situation où je me suis retrouvé face à une probabilité de mourir. Et c'est un truc dans notre existence, on a très rarement ça, en disant si ça se trouve là dans quelques heures je suis mort, et c'est pas quelque chose qu'on fait et c'est pas quelque chose que je vais chercher, hein. Ce genre de sensation ça me fait pas du tout kiffer.
C'est
pas du tout ce que je vais chercher.
Ouais.
Et on est vraiment très orienté sur la sécurité. Enfin, à aucun moment j'ai l'impression de me mettre en danger. Là, c'est arrivé à un moment parce qu'il y a eu un sale concours de circonstances, quelque chose d'accidentel, mais c'est pas du tout quelque chose que je vais chercher, et c'est pas du tout une situation normale, et c'est pas du tout quelque chose que j'entends reproduire. Hein. Ouais. Ce soit bien clair, même si l'accident peut arriver comme dans n'importe quelle activité, mais c'est du domaine de l'accident, c'est pas de la prise de risque
démesurée,
même calculée, quoi. Sinon, c'est de l'accident.
Et à l'inverse, c'est quoi ton plus beau souvenir aujourd'hui de sur les eaux?
Il y en a énormément, parce que c'est difficile à répondre à cette question, parce que en fait il y en a énormément et ils peuvent paraître totalement anodins, futiles, tu vois, parce que et c'est pas forcément les plus impressionnants. La voile, c'est ce qui m'a toujours passionné, ce qui me passionne encore, c'est une affaire d'équilibre. C'est, à un moment donné, tu te retrouves sur un bateau, quel qu'il soit, ça peut être un petit bateau, ça peut être un petit bateau de monsieur tout le monde, monsieur, il n'y a pas besoin d'une bête de course, mais à un moment donné, d'atteindre cette espèce de certitude de que là, tu es en phase avec l'environnement, tu es en phase avec ton environnement, ou je suis en phase avec mon environnement. C'est-à-dire que le bateau, il va marcher bien, que c'est quelque chose d'équilibré, de fluide, et que là, je suis dans un état où tout est en phase. Et on n'a pas besoin d'aller à 40 nœuds, des vitesses incroyables, des machins pour avoir ça. C'est juste d'avoir cette idée-là. Et ça arrive assez souvent. Et c'est hyper satisfaisant et assez personnel. Et puis après, évidemment, tous les souvenirs de victoire sont des bons souvenirs parce que t'as le côté compétiteur qui prend le pas. Et c'est toujours quand même vachement sympa de gagner les courses, d'arriver le premier, de gagner, de dire j'arrive là, on est parti il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis là j'arrive, bah. Moi, je suis le premier à arriver, et puis maintenant, je vais attendre les autres. Quoi. Ça, c'est quand même un gros kiff. Quoi. Enfin,
tu vois, on est d'accord.
C'est bon. Donc, ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais ça arrive.
Tu te dis quoi le matin pour créer un mental d'acier et un mental de champion ? Tu as des petits rituels ?
Non, j'ai pas de rituel, mais j'ai. Ça m'est à peu près jamais arrivé, ou il y a très longtemps, de traîner les pieds le matin pour ma journée de boulot. C'est-à-dire tous les matins, là, je suis plutôt heureux et enthousiaste à la journée que je vais passer. Parce que j'ai la chance, c'est pas réellement de la chance, mais en tout cas, le bonheur de faire le métier qui correspond à ma passion et qui correspond à ce que j'ai toujours eu envie de faire, et de le faire aujourd'hui, de continuer à le faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui me réjouit énormément.
Ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais te donner, enfin, si tu pouvais te donner un conseil au Yves qui avait 18 ans et qui arrive à La Rochelle, Tu lui donnerais quoi comme conseil?
J'aurais eu le courage d'être un peu... Enfin, le courage. C'est pas une histoire de courage, mais j'aurais trouvé l'énergie d'être un poil plus scolaire, de pouvoir me cogner une prépa, une école d'ingé, dont je suis évidemment capable, hein, mais dont j'avais vraiment pas l'envie. Ça m'aurait simplifié l'existence, et j'aurais passé moins de temps à j'aurais été plus vite dans ma carrière, quoi. Aujourd'hui, clairement, le métier que je fais, c'est un métier d'ingénieur, c'est un métier d'arriver à synthétiser des problématiques, d'apporter des solutions adaptées à l'environnement et de les faire évoluer en fonction de la demande, enfin d'être toujours. Donc c'est vraiment et si j'avais pu faire ça, mais en aucun cas j'ai des regrets, parce que ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, et puis que c'est pas un hasard, mais effectivement j'ai pas l'impression d'avoir pris la trajectoire la plus simple. Mais bon, voilà, c'est pas des regrets, hein, mais avec le recul, évidemment, tu te dis, mais t'es con, t'aurais fait ça, ça aurait été plus simple.
Ouais, c'est normal quand on est jeune de pas penser toujours le long terme. On a tous passé par
là. Ouais, et puis là, clairement, enfin, moi je défends ça, que le système éducatif dans lequel j'ai évolué, et nous évoluons tous. Eh ben moi j'étais inadapté, clairement. Ouais. Ouais, je suis inadapté dans le monde qu'on vit, hein, tu vois.
Ouais, ouais, bien sûr.
Mais ce système-là, là, j'ai lutté, mais j'étais malheureux comme tout là-dedans. Enfin,
je suis tout à fait d'accord avec toi.
Donc voilà, après, ça fait pas des échecs pour autant, mais c'est juste des parcours un peu plus laborieux.
Bien sûr. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'éducation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il n'y a qu'un seul modèle d'éducation aujourd'hui en France. Ouais. Il n'existe pas d'autres. Peut-être plus porté sur le faire plutôt que l'apprendre, sur les relations sociales plutôt que les relations intellectuelles. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Donc, même si j'ai des parents qui m'ont poussé, maintenant je ne le regrette pas, c'est sûr. Mais ça a été un peu laborieux pour moi aussi.
C'est pas très grave. Mais aujourd'hui, quand je vois les coureurs, les gens qui naviguent aujourd'hui, qui font le même métier que moi, qui sont d'une génération, d'une demi-génération en dessous, sont des gens qui ont effectivement un parcours beaucoup plus scolaire, c'est pas forcément négatif, mais qui ont été, qui sont des gens brillants à l'école. Quoi.
Ouais. Ok.
Et c'est plus pratique, hein, c'est sûr.
Bon, on arrive à la fin. J'ai deux petites dernières questions que je demande à toutes les personnes que j'interviewe. La première, c'est est-ce que tu as un livre ou un film ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un documentaire, un roman que tu recommandes ou qui t'a marqué ces derniers temps. Ou une musique, tiens.
Ouais. Non, il y a vraiment un bouquin qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé une super histoire, c'est un livre écrit par, co-écrit par Olivier de Kersauzon, qui s'appelle Fortune de mer. Je ne sais pas s'il a été réédité, je crois qu'il a été réédité une fois. Qui est l'histoire d'un tour du monde dans les années 70, monté de briquet de broc avec une aventure humaine incroyable. En fait, et ça m'a vraiment fait rêver, vraiment fait rêver. Enfin, la façon dont c'est raconté, cette aventure-là, moi je trouve que c'était vraiment une aventure. Quoi. Il y avait vraiment une aventure. Comme ça, là, tu vois, sans être préparé à la question, c'est la première réponse, parce qu'il doit y avoir d'autres après.
Déjà c'est très bien
mais
ça
fait voilà.
Un petit reco de lecture et la dernière question que je pose, ça serait qui le prochain sportif que tu aimerais écouter sur ce podcast pour que j'aille l'interviewer? Ça peut être un marin ou pas
je pense qu'il y a un gars, parce que c'est un gars avec qui j'ai collaboré sur un trophée mer montagne. C'est l'hiver, on s'amuse à la montagne à faire des trophées entre marins et montagnards. Et j'étais associé avec un gars vraiment, vraiment intéressant qui s'appelle Antoine Girard, qui fait des trucs en parapente de malade.
Trop cool.
Il a une approche vachement intéressante. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire équipe avec lui pendant quelques jours. Si tu veux le contacter, je peux te laisser son contact. Et puis,
écoute, avec grand plaisir, ça m'intéresse bien.
C'est vraiment intéressant.
Super, écoute, merci beaucoup Yves. C'était un grand plaisir. Et je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que 80% des auditeurs écoutent jusqu'à la fin. Donc, je remercie à tout le monde pour son écoute et je te remercie vraiment toi pour ton temps. C'était vraiment passionnant.
Merci Barthélémy et à bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.